Vous êtes sur RTL. RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Grand Soir. C'est votre rendez-vous avec l'actualité de votre journée à tête reposée. Avec à la une ce soir, l'acharnement à frauder. Argument retenu lors des réquisitions au procès pour fraude fiscale des époux Balkany. 4 ans de prison ferme demandés à l'encontre du maire de Levallois-Perret, assorti d'un mandat de dépôt. 4 ans de prison, dont 2 fermes pour son épouse. 10 ans d'inéligibilité pour tous les deux. Patrick Balkany, si combatif pendant 3 jours, a accusé le coup ce soir à la sortie du palais de justice.
Je pense que tous les propos du procureur étaient très excessifs, y compris d'ailleurs sur ses réquisitions.
Réaction et décryptage, dossier complet dès le début de ce journal. 17 nouveaux cas de décès suspects sur les épaules, dans les poches de la blouse de l'anesthésiste de Besançon. On prendra la direction du Douai Guillaume Chiez dans 5 minutes. Et puis, si jamais, il vous reste moins de 2 heures désormais pour envoyer vos impôts, votre déclaration de revenus sur format papier. La météo, le retour de la pluie, c'est pour demain. 22h20, votre magazine de l'écho. Comme tous les soirs, on parlera frais de téléphone pour l'étranger et d'une toute nouvelle application d'achat de voiture de location. Puis à 22h25, invité VIP ce soir, Iris Mittner. Miss Univers, devenue au Paradis Latin à Paris, meneuse de revue, danseuse, chanteuse, épanouie. Elle est aujourd'hui l'oiseau paradis et sera avec nous juste avant 22h30. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Le procès Balkany à l'heure des réquisitions. Prison ferme, je vous le disais, et 10 ans d'inéligibilité réclamés contre Isabelle et Patrick Balkany, accusés de ne pas avoir payé l'impôt sur la fortune et d'avoir totalement sous-évalué leurs revenus dans la période comprise entre 2009 et 2014, des sommes dues qui sont estimées à 4 millions d'euros. À la sortie de l'audience, Maître Dupont-Moretti, l'avocat de Patrick Balkany, est revenu sur les peines énoncées. 4 ans de prison pour être très clair pour le maire de Levallois-Perret et 4 ans, dont 2 avec sursis pour Isabelle, son épouse, son adjointe. Une humiliation totale pour le ténor du barreau.
On est rentré dans une période de moralisation absolue. Et dans cette époque-là, voyez-vous, la justice, elle se rend parfois au pied du mur de l'exemple.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que si vous regardez toute la jurisprudence en matière de fraude fiscale, on est sur des peines qui sont himalayennes.
Est-ce que ce soir, il réalise qu'il risque gros ?
Mais il l'a toujours réalisé. Vous savez, monsieur, je vais vous dire quelque chose. Il y a Balkany tel qu'il se présente et qui fait un peu le beau et qui parade un peu et c'est dans sa nature. Et puis il y a le Balkany que je connais et je peux vous dire qu'il est mort de trouille et qu'il est bourré de cachetons.
Bourré de cacheton, oui, ça veut dire quel genre de cacheton ? Ce soir, pour dormir, il va devoir prendre des médicaments, c'est ce que vous dites ?
Je pense que ce n'est pas de la vitamine C, c'est des tranquillisants et des choses de cette nature, vous comprenez ?
Maître Dupont-Moretti, invité à 18h de Marc-Olivier Fogiel dans RTL Soir. Et le jugement sera rendu le 13 septembre prochain.
RTL Grand Soir.
Avec Christophe Paco.
Et on va aller plus loin avec vous ce soir, Alice Moreno dans RTL Grand Soir. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alice Moreno, service police-justice d'RTL. Vous avez suivi ce procès, vous le suivez pour nous, évidemment, puisqu'il va continuer. Après ce réquisitoire, Alice, finalement, on a découvert un autre homme ce soir, loin, très loin du one-man show des 3 premières journées d'audience.
Ah oui, lui qui, toute la semaine, se dirigeait quasiment à chaque suspension d'audience, tout droit sur nous, sur les journalistes, complètement à l'aise. Il y a eu notamment cette fameuse passe d'armes entre lui et son avocat, Maître Dupont-Moretti, quand son conseil qui évoque l'état de santé de Madame Balkany. Patrick Balkany qui intervient pour dire, attendez, moi j'ai pas 71 ans, j'en ai 70, forcément c'était pas vraiment le moment. Et puis toute la semaine, il a clamé, voilà, j'ai horreur de la corruption, qu'il a commencé la politique riche, qu'il la termine pauvre. Hier, il était invité à s'expliquer sur sa fortune et il a déambulé entre les juges, les avocats, les procureurs, avec cette voix, un caractéristique très grave, très forte. C'était presque le député en séance à l'Assemblée, il pointait du doigt les uns et les autres, notamment l'avocat de l'État. Il dénonçait même la négligence de l'administration fiscale qui, selon lui, ne cherche qu'à nous taxer le plus possible. Et aujourd'hui, effectivement, ça n'avait rien à voir. Il est resté extrêmement discret quand le procureur l'a interpellé avec cette phrase, notamment, monsieur Balkany, vous êtes un fraudeur, un cynique, la dissimulation a un coût, le mensonge a un prix. Patrick Balkany l'a fixé, immobile, muet, et il a fini par dire à la barre, oui, j'ai commis des fautes, et sa voix tremblait, il était à peine audible.
Finalement, aujourd'hui, quoi, il paye son arrogance, cette façon peut-être bien à lui aussi de plaider, voire comme vous l'avez dit, de parader en même temps. Est-ce qu'il réalise vraiment ce qui lui arrive ce soir?
Alors je vous disais, il a bien dit aujourd'hui, j'ai commis des fautes, et ça après le lourd réquisitoire du procureur. Mais hier encore, quand le président à l'audience l'a interrogé, lui demandant s'il avait des regrets, il a seulement dit qu'il regrettait d'être devant le tribunal, monsieur le juge. J'aurais préféré qu'on prenne un café tous les deux. Voilà précisément ce qu'il a répondu, et ça n'a pas échappé au procureur. Il l'a taclé cet après-midi. Le seul regret de monsieur Balkany, c'est de s'être fait prendre. Voilà ce qu'il a dit. Autre chose aussi, la manière dont il a décrit son patrimoine hier face au juge. Oui, nous avons été très riches, il a reconnu, mais il a décrit son moulin de Giverny comme une belle bâtisse, certes, mais dans son jus. Et il a décrit aussi sa somptueuse villa de Saint-Martin comme de simples bungalows, non pas sur deux niveaux, mais un rez-de-chaussée, un sous-sol.
Et la ça, villa Pamplemousse.
Voilà, la villa Pamplemousse. Et il a dit, voilà, elle n'est même pas au bord de la mer, elle est sur la colline, donc on la loue moins cher.
On ne parle même pas des océans de billets dans la famille Balkany. Ce n'est pas terminé pour l'un comme pour l'autre. Lundi, on attaque un deuxième volet dans ce procès, Alice Moreno, c'est bien ça?
Exactement. Là, c'était le seul procès pour fraude fiscale. Lundi, deuxième et dernier volet, le procès pour corruption et blanchiment sur les montages financiers pour dissimuler la fortune. Dans ce volet-là, les Balkany risquent jusqu'à 10 ans de prison. Et il y a 4 autres prévenus pour cette partie du dossier. Un prince saoudien, Jean-Pierre Aubry, qui est l'allié de toujours du couple, l'ancien avocat associé de Nicolas Sarkozy, Arnaud Claude, pour leur rôle central dans ce montage. Et puis le fils Balkany, Alexandre, qui est accusé d'avoir signé des baux de location fictifs.
C'est parti pour un mois, c'est ça?
Et oui, c'est parti pour 5 semaines encore.
Merci à vous, allez suivre évidemment pour RTL. Alice Moreno, service police justice d'RTL.
Merci, bonne soirée.
Autre enquête, celle concernant cette fois les décès suspects à Besançon pendant la période où l'anesthésiste Frédéric Péchier exerçait dans le Doubs. Déjà condamné pour 7 empoisonnements après de nouvelles investigations ce soir sur une cinquantaine de cas qui prêtent à question, eh bien, une 17, on peut le dire, 17 d'entre eux pourraient être attribués, Guillaume Chiez, au docteur Péchier, mis en examen pour empoisonnement sur personne vulnérable.
Oui, ces 17 nouveaux dossiers concernent des patients âgés de 4 à 80 ans. 7 d'entre eux sont décédés lors de l'opération. La clinique Saint-Vincent avait signalé 66 événements indésirables graves. Après 2 ans d'enquête, les policiers de la PJ en ont donc retenu 17. Ils ont tous en commun la présence du docteur Péchier, comme l'explique Étienne Manteau, le procureur de la République de Besançon.
Monsieur Péchier apparaît comme le dénominateur commun de ces événements indésirables graves. Il est le seul anesthésiste sur la période étudiée, je dis bien le seul, à avoir été présent le jour de l'ensemble des événements indésirables graves suspects. Nous avons affaire à un professionnel de santé particulièrement habile, qui a agi lorsque personne ne se trouvait dans les salles d'anesthésie, qui a su varier dans le temps la nature des poisons administrés pour ne pas éveiller les soupçons.
Concernant les motivations de l'anesthésiste, le procureur parle d'une ambiance très conflictuelle entre le médecin et ses confrères. Point intriguant, jamais les patients du docteur Péchier n'étaient concernés par ces incidents graves. En garde à vue, l'anesthésiste a d'abord tout nié en bloc. Il aurait ensuite, selon le procureur, reconnu qu'il y avait bien eu des empoisonnements, mais qu'il n'en était pas à l'origine.
Guillaume Chiez, à Besançon, pour RTL. Et puis l'enquête sur l'interpellation de lycéens de Mantes, la jolie mise à genoux par la police, a établi aujourd'hui qu'il n'y avait pas eu de faute de la part des forces de l'ordre, pas de comportement déviant selon les termes de cette conclusion. Le rapport met en exergue le contexte très violent de l'époque, c'était, souvenez-vous, en pleine mobilisation nationale des lycéens en décembre dernier. La longue cavale de Josu Ternera, l'un des plus influents chefs de l'organisation séparatiste basque ETA, recherché par l'Espagne et la France depuis 16 ans, a pris fin aujourd'hui en Haute-Savoie. L'ancien numéro 1 de l'organisation dissoute l'année dernière, âgé de 68 ans, est arrêté au petit matin sur un parking de l'hôpital de Sallanches.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
22h08, vitesse maintenue à 80. Édouard Philippe s'est dit prêt à laisser cette fois au président de conseil départemental la possibilité de revenir à 90 km/h sur les routes secondaires. Libre choix donc pour une décision, on s'en souvient, bien impopulaire. Demi-tour pleine voix, Dominique Tenza, de la part du Premier ministre, seul vent debout pendant des mois.
Et même contre tous, les automobilistes d'abord, les premiers à porter le fer, les élus locaux ensuite, pour qui cette réforme décidée à Paris, appliquée en province, était le symbole de la déconnexion d'une certaine élite. Mais surtout, il a dû batailler contre son propre camp. Première alerte, il y a un an, Gérard Collomb est est alors interrogé sur la mesure.
J'aimerais bien avoir votre position sur les 80 km/h.
Je prends un joker sur la question suivante.
Un joker qui en dit long, si même le ministre en charge des routes n'y croit pas. Pourtant, Édouard Philippe ne s'avoue pas vaincu.
L'idée, c'est de sauver des vies. L'idée, c'est d'éviter des blessés. Pourquoi est-ce que vous pensez une seconde que mon objectif, ce serait d'emmerder l'automobiliste qui, le matin, prend sa voiture pour aller travailler?
En coulisses, il demande à sa majorité d'aller défendre la mesure sur le terrain, mais peu sont ceux qui s'y risqueront, et pour cause, trois quarts des Français y sont opposés. Certains accusent même cette réforme d'avoir été l'un des déclencheurs de la crise des Gilets jaunes. La popularité du Premier ministre s'effondre avec celle du Président, et c'est lui, Emmanuel Macron, qui portera le coup de grâce lors de son premier débat dans l'heure.
On ferait une bêtise à dire on abandonne nos exigences de sécurité. Par contre, dire on pense qu'on a des propositions mieux acceptables pour la population, qui seraient tout aussi efficaces, parce que nous on sait quel est le tronçon qui est dangereux, quel est celui qui ne l'est pas ou autre, à mon avis, peut-être qu'on peut y arriver.
Édouard Philippe comprend ce jour-là que sa mesure vient d'être sacrifiée sur l'autel de la réalité électorale.
Je dois apprendre à composer avec l'incompréhension ou le rejet de certains de nos concitoyens.
Après un an et demi de combat, isolé, il choisit donc aujourd'hui de jeter l'éponge.
Dominique Tenza, service politique d'RTL. Invité d'RTL Soir, Chantal Perrichon, la présidente de la Ligue contre la violence routière, a déploré, elle, de son côté, cette marche arrière d'Edouard Philippe sur ses 80 km/h. Elle appuyait sur le fait qu'il, je cite, « n'ont aucune connaissance précise de l'accidentalité ». Le chômage à son plus bas niveau depuis 10 ans. L'INSEE a confirmé ce matin les chiffres de Pôle emploi. Le chômage a reculé de 0,1 point au premier trimestre pour se stabiliser à 8,7%, ce qui représente mathématiquement 2 400 000 chômeurs. L'examen de la plainte au prud'homme des 800 salariés de Goodyear d'Amiens encore repoussé. Ils estiment avoir été licenciés sans cause sérieuse il y a 5 ans lors de la fermeture du site et réclament une indemnisation à leur ancien patron. Il faudra attendre maintenant plusieurs mois pour connaître l'avis de la commission lors d'une audience de départage. La politique annoncée aux côtés de Marine Le Pen ce soir en meeting à Fessenheim, le nouveau venu, issu de la France insoumise, Andrea Cotarac, a remis finalement à plus tard sa présence auprès de son tout nouveau parti, le Rassemblement National. Donc Marie-Bénédicte Allaire.
Eh bien effectivement, mais ce n'est que partie remise, puisque le Rassemblement National annonce sa présence pour le dernier rendez-vous de campagne, vendredi 24, à Hénin-Beaumont, le fief de Marine Le Pen. Nous n'avons pas pu lui parler directement, mais il nous a renvoyé sur un de ses nouveaux amis du Rassemblement National. Celui-ci a expliqué que c'était un problème d'agenda très sollicité. Andrea Cotarac a des rendez-vous médias demain qu'il voulait honorer. À Fessenheim, en tout cas, cette absence ne bouleverse pas les militants. Voici ce que m'a répondu Thierry quand je lui ai demandé s'il connaissait Andrea Cotarac.
Ça me dit rien du tout.
C'est le gars de chez Mélenchon qui vient d'annoncer...
Ah oui, oui, ça j'ai vu à la télé, oui, oui, voilà, voilà, voilà.
Mais sur le fond, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour lui?
C'est quand même l'extrême gauche, donc voilà. Après, si il voit que à l'extrême droite, c'est mieux, le programme est meilleur, bah pourquoi pas.
Pascal, en revanche, a moins d'hésitation.
Quand je vois les sondages, France Insoumise, ils sont à 12% ou 10%, et que la Marine, elle devance. Alors forcément, il faut voter la Marine.
Et pourtant, comme il le dit lui-même, les deux programmes ne sont pas compatibles, mais qu'importe, tous les renforts sont les bienvenus pour les militants.
À Fessenheim, envoyé spécial Marie-Bénédicte Allaire pour RTL. À l'étranger, Boeing vient d'annoncer à l'instant que sa mise à jour du système anti-décrochage, mise en cause dans les catastrophes aériennes en Afrique qui ont fait 346 morts, ainsi que les changements nécessaires à la formation des pilotes, étaient prêts. Et puis Donald Trump vient, lui, de son côté, d'annoncer son intention de mettre en place un système migratoire américain admiré, je cite, du monde entier, qui intègre davantage de travailleurs qualifiés, en dénonçant, bien sûr, le modèle actuel, selon lui, faussé par les demandes d'asile fantaisistes. Le président américain a souhaité également obliger les migrants à désormais apprendre l'anglais. Et puis les polices européennes et américaines ont annoncé avoir ce soir démantelé un vaste réseau de cybercriminels ayant dérobé plus de 100 millions de dollars à des dizaines de milliers de victimes dans le monde en utilisant un logiciel malveillant russe. Une gamine de Paris qui nous a quittés aujourd'hui, Mick Michel, à 97 ans. Mick Michel, marraine de cœur dans le métier de Laurent Gérard, qui n'a pas oublié ses premiers pas à ses côtés.
Moi, je l'ai connue vraiment à mes tout débuts, il y a 30 ans, parce qu'elle était lyonnaise et moi, je débutais. Elle m'avait pris sous son aile, elle m'avait dit « j'aimerais être ta marraine dans le métier », ce qui m'avait d'ailleurs plutôt porté chance. C'était une femme vraiment qui aimait le musical, qui aimait s'entourer, qui avait une vraie belle carrière. Et moi, je lui rends hommage d'ailleurs tout le temps dans le spectacle parce que je chante « Les gamins de Paris » par Yves Montand. Mais il y a plein de chansons d'elle que j'aime beaucoup, « Cano Canoë »,« Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là ». Ça faisait partie de cette génération qui ont vraiment créé des vrais spectacles de musical. Alors, c'est les hasards hasard du calendrier et puis peut-être des signes de la vie. On a enregistré une parodie du Gamin de Paris sur la maire de Paris. Donc on devrait entendre ça sur RTL dans les semaines qui viennent.
Gamin de Paris, évidemment, ce soir, et cette chanson qui nous a bercé pour beaucoup. Et si on parlait du gamin de Mâcon, vous savez, Antoine Griezmann, oui, joueur de l'Atlético Madrid maintenant, qui a donc déchiré son contrat pour partir, peut-être, qui sait, au Barça, puisque son avocat, c'est une info RTL, est en ce moment même à Barcelone en train de discuter. La météo pour conclure, c'est avec vous Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Christophe. Malheureusement, demain c'est le retour du mauvais temps, puisqu'on a une perturbation qui arrive cette nuit par les Pyrénées. On retrouvera la zone pluvieuse demain matin sur un large quart sud-ouest, avec des pluies localement soutenues, notamment sur le Pays Basque et le Tarn. De la neige sur les Pyrénées dès 1800 mètres. Et les pluies vont s'étendre sur toute la moitié sud, avec un risque orageux et un vent sensible jusqu'à 70 km/h sur le Pays Basque et les côtes varoises. La moitié nord sera épargnée, mais le ciel restera plus ou moins chargé toute la journée. Seule l'Alsace et la Lorraine auront droit à un franc soleil le matin. Il pourrait y avoir quelques gouttes l'après-midi sur les côtes de la Manche. Les températures, elles vont nettement baisser dans le sud, jusqu'à moins 10 degrés parfois. Il fera 12 dans l'après-midi à Aurillac et à Tarbes, 15 degrés à Montélimar, 19 à Dijon, 21 à Paris et 22 à Strasbourg.
Merci mille fois, Peggy Broche.